et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
The yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les voix du Scénarium. J'espère que vous allez bien. Au menu de ce soir, une grande interview qui sera en deux parties consacrée à la Loutre Rôliste, un éditeur très sympa, un éditeur avec le poil brillant, un éditeur qui va nous parler de son métier, de ses jeux, mais de qui il est, de pourquoi il est éditeur, et puis de son actualité avec deux jeux, un qui va sortir prochainement et un qui est en cours de financement participatif. Eh bien écoutez, je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de la Loutre Rôliste, alias Christophe Desnouveau, ou inversement.
Radio G 101.5 FM.
Donc je suis en compagnie de la Loutre Rôliste, alias Christophe Desnouveau. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Merci de cette interview. Est-ce que on peut commencer par une petite présentation? Alors, il y a souvent deux présentations à faire. Qui es-tu toi et comment en es-tu venu au jeu de rôle? Et qu'est-ce que c'est que la Loutre Rôliste?
Alors, moi, je suis un rôliste depuis 1989, donc j'avais une dizaine d'années. Et en fait, j'ai découvert le jeu de rôle parce que mon frère avait découvert ça alors qu'il était en cure, tout simplement. Et en fait, un animateur leur avait fait jouer à ADD, je crois, si je me souviens bien. Et puis quand il est rentré, il était comme un fou. Et en fait, avec ses potes et les petits frères des potes, tout le monde s'y est mis. Donc très vite, j'ai commencé à maîtriser parce que bien sûr les copains voulaient pas prendre en charge les parties, donc voilà. Donc ça a fini par faire une loutre qui est à 98% de MJ et 2% de PJ. Et puis comment j'en suis arrivé à la loutre? C'est un long parcours. Moi, ça faisait des années que je voyais les livres sortir. Je me disais, j'aimerais bien un jour. Bon, finalement, la vie a fait que je suis devenu professeur des écoles. Et puis un jour, j'ai tout plaqué, j'ai dit au revoir à l'éducation nationale, c'était un gros projet, c'était le grand saut dans le vide, et en 2014, au mois de mars précisément, j'ai lancé la Loutre Rôliste. Alors au départ, J'étais auteur, j'étais auteur, traducteur pour des collègues. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai bâti mon projet. En 2015, on a signé notre première licence avec Black Sad, donc tirée de la BD éponyme.
La BD, ouais.
Voilà, c'était donc avec nos solos éditionnesses, nos collègues avec qui on travaille toujours. Après, ben, ça, Black Sad est sorti en 2016. On a enchaîné sur Petit Détective de Monstres. On a enchaîné avec aussi, en même temps, quasi en même temps, il y avait Itos, donc le guide générique. Donc c'est un système de jeu générique entre le technique et le classique et narratif, avec des extensions. Et puis après, on a continué. Donc après, on a développé nos gammes. On a sorti Dream Raiders aussi, donc de la science-fiction onirique. Puis plus tard, Stalker. Récemment, on a reçu La Porte d'Ishtar, qui est un fabuleux jeu de rôle qui se passe à l'époque juste après l'époque sumérienne, donc l'époque acadienne, et c'est de la sorcière d'une sorcellerie avec à la sauce mésopotamienne, et c'est avec un immense background, avec des règles simples à mettre en place. On a dans quelques jours il va arriver à la maison Chronique d'un vampire millénaire, un RPG solo multiprimé au Zénith. Voilà, et en fait c'est ce jeu qui a en gros lancé la grande mode des jeux de rôle solo. Donc là l'idée, c'est avec des amorces auxquelles on va répondre, on va raconter la vie de son vampire, et on va avancer d'amorce en amorce avec juste un D10 et un D6, et on va faire une véritable histoire, et on peut le recommencer autant de fois qu'on veut. Là, on est en train de financer Incroyable Détective de Monstres, qui est le second livre de base de ce qui est désormais une collection, la collection Détective de Monstres, donc qui comprend Petit Détective de Monstres, qui est déjà disponible avec toute sa gamme, et ça va s'enrichir avec Incroyable Détective de Monstres, qui est à la fois un livre autonome, donc si on n'a que celui-là et qu'on n'a pas Petit Détective, on peut jouer avec, sans problème, mais on peut aussi s'en servir parce que dedans, il y a tout plein de matériel nouveau, et les deux ensemble, quand vous avez les deux ensemble, bah, vous avez la totale au niveau des monstres, des gadgets, des lieux, des règles, de tout. Voilà. Mais chaque livre est autonome, on peut jouer avec l'un ou avec l'autre. Et donc là, on le finance depuis le 16 mai jusqu'au 16 juin. Donc on vous invite à passer faire un tour sur la page Ulule. On vous refera avec grand plaisir, et les monstres aussi.
Ok, on va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure sur les jeux qui vont arriver ou les jeux qui sont encore en gamme. Pour finir un petit peu sur la partie loutre rôliste en elle-même, déjà, pourquoi une loutre ?
Ah, cette question, je l'adore. Non, mais la pose tout le temps, mais c'est génial parce que, en fait, voilà. Le principe de base était que j'étais quelqu'un qui, pour me détendre et pour par plaisir, je dessinais énormément de petits animaux partout, et ça depuis le lycée. Sur mes feuilles, des fois, il n'y avait pas plus de dessins que de cours. C'était assez amusant. Et puis, en fait, je cherchais un nom pour la loutre rôliste qui n'était pas encore. Et je réfléchissais, voilà, il faudrait que s'il y ait le terme de rôliste dedans, il faudrait que, parce que je veux pas mettre JDR, ou parce que, ouais, il y avait déjà les copains de JDR édition, il y avait déjà, puis je voulais un nom qui parle aux gens, donc déjà, il fallait qu'il y ait rôliste dedans. Et puis, je me suis dit, mais il faut un animal, lequel? Et puis, c'était un matin au café, j'ai fait, oh, mais c'est cool, les loutres. Et en fait, c'était pas encore l'époque où les loutres avaient investi les réseaux, où il y avait un engouement pour les loutres. Et donc, bah, j'ai décidé de prendre la loutre rôliste. Alors, pour la petite anecdote, le terme rôliste, j'ai eu le droit de l'utiliser parce que le terme rôliste est un terme déposé. Hein,
ok.
Voilà. J'ai demandé autorisation. Et puis voilà. Et donc depuis, bah, loutre rôliste est toujours là, dans sa rivière tranquillement, en train de préparer ses petits jeux. Avec ses petites papates, et depuis, ben, donc maintenant ça va faire, donc que je dise pas de bêtises, ça a fait 9 ans au mois de mars déjà,
c'est ça, 2024, donc, 10 ans, bientôt un an,
voilà, du coup. C'est ça, ouais, on va faire les fous dans la rivière, ça va être terrible. Justement, je suis déjà en train de me dire, bon, faut peut-être que tu t'y prennes maintenant pour réfléchir à ce que tu vas faire pour les 10 ans l'autre, parce que ça va être quand même important. 10 ans, c'est pas rien. C'est un long chemin semé d'embûches, de joies, de difficultés, de voilà. C'est la vie d'éditeur. Je pense qu'il va y avoir un énorme truc à faire l'année prochaine. pour fêter les 10 ans et puis parce que vu comment nos projets se développent, voilà, il y aura ça, plein de belles choses au printemps 2024 qui vont être annoncées. Donc voilà, ça sera l'occasion. On est c'est nos 10 ans et on va pouvoir lâcher pas mal d'informations. Voilà.
Ok.
On prévoit des surprises.
Bon, on va découvrir ça. Ce sera peut-être l'occasion de se refaire une autre interview par la suite. Tu parles de joie et de contraintes. Déjà, avant d'aborder des grandes joies et des contraintes sur le retour que tu as pu avoir sur ces 9 années d'existence de la Loutre, c'est combien de personnes la Loutre en termes de structure ?
Alors, c'est moi, c'est Madame Loutre. Et puis après, il y a quelques personnes qui ont gravité ou qui gravitent. Voilà, donc il y a quelques amis rôlistes de ci, de là, voilà, sur lesquels je peux compter pour donner leur avis éclairé. Il y a Olivier Reynaud, qui est donc un illustrateur qui travaille aussi avec le Scriptarium et Alconost, par exemple, et qui a travaillé aussi sur la série. Il me semble, oui, il m'a montré un livre la dernière fois parce que c'est mon voisin, en fait. Voilà, qui avait participé aussi pour des illustrations sur la version anglaise, une dernière version anglaise de Loup solitaire. Le livre d'Obès le héros. Donc lui, il a travaillé avec nous sur Petit détective de monstres pour les plans d'émission. Et il a travaillé sur les plans et cartes de Petit pirate aussi. Et oui, j'avais oublié Petit pirate tout à l'heure, honte à moi.
Mais on va revenir dessus.
Voilà, puis on va continuer à travailler avec lui sur ça. Et puis on a eu quelques relecteurs comme Ben Puzzle. Ami qui est sur Périgueux, que je salue au passage s'il écoute. Et voilà. Donc voilà, quelques collaborations, bien sûr, comme tout le monde, mais l'équipe, c'est moi et Madame Loutre, et puis les Loutres aussi.
Ok. Est-ce que tu peux, du coup, me faire un retour sur quelques complexités ou quelques grandes joies, en fait, de la Loutre ?
Alors, on va commencer peut-être par les joies. Quand tu sors ton premier bouquin, déjà tu fais « Oh, j'ai vécu un truc, quoi !» Et puis, au fur et à mesure que tu vois ça grandir, que tu te retournes, que tu fais « Ouais, quand même !» On en a abattu du boulot, quoi. Moi qui avais quitté Éducation nationale en me disant « Bon, ok, je sais que ça va être rude et tout, mais là, c'est vrai que le rythme était beaucoup plus furieux. » Eh ben en fait c'est encore plus intense et puis en fait surtout le côté positif c'est qu'on apprend énormément de choses. On est au contact de beaucoup de gens, par exemple quand on va dans les conventions, on rencontre beaucoup de joueurs. En fait ça qui est bien aussi dans le monde du jeu de rôle, c'est comme c'est un petit monde, en fait très très vite on lit des contacts, ça devient pour certains de l'amitié. Après, c'est des copains. Enfin, voilà, il y a pas mal de. Au niveau humain, il y a beaucoup de choses satisfaisantes au niveau du intellectuel aussi. Parce qu'à chaque fois que tu es confronté à un jeu, à une traduction, à une manière de voir les choses, c'est totalement différent, quoi. C'est chaque jeu a sa saveur, voilà. Et après, c'est vrai que derrière, il y a un travail monstrueux. Il y a vraiment un travail monstrueux. Il est vrai qu'en plus, à l'autre, on est un peu multicasquette, donc on fait vraiment presque tout. On délègue pas énormément, sauf dans certains cas, comme je t'ai dit. Mais c'est parce qu'effectivement, ça a un coût et que le modèle économique du jeu de rôle étant ce qu'il est. Voilà. Et sachant que beaucoup, effectivement, ont un boulot à côté, nous, on fait que ça. On se consacre à 100% au jeu de rôle. Donc voilà, c'est notre gagne-pain et donc ça nous demande énormément de travail. Et après, c'est vrai que par contre, avec les années, on s'organise beaucoup mieux. Il y a des choses auxquelles on a l'habitude, bien sûr, on prend de l'expérience, on prend de l'assurance. Et nous, comme on s'est toujours attaché à faire des produits de très très bonne qualité, et on a toujours des très bons retours de ça, des clients, des médias. Et tous ceux qui ont nos livres entre les mains. Donc voilà, nous, notre bonheur, c'est de se dire, voilà, le client, le rôliste ou la rôliste, ont nos livres entre les mains et sont satisfaits. Et ce qu'on aime aussi, c'est quand les gens nous partagent. Alors ça, c'est un des points positifs, c'est quand les gens nous partagent leur expérience. de jeu, ils nous envoient des petits mails gentils ou des petites vidéos, des petites choses pour nous montrer ce qu'ils ont fait. Ça, c'est vraiment des moments, c'est super motivant. Et puis, les points difficiles, les points négatifs, à part le fait qu'il y a énormément de travail et que des fois tu fais, le sommeil, c'est un concept que je ne connais plus, c'est un concept éculé. C'est quand même beaucoup de pression au niveau du temps, beaucoup de pression financière, surtout quand tu ne fais que ça. Tu n'as pas un appoint à côté. Parce que tout dépend de ce que tu fais de tes pattes. Et si la loutre ne fait pas son truc, ça va être compliqué. On est toujours là au bout de 9 ans. Donc c'est que, voilà. C'est pas je claque des doigts et tout se fait de manière magique, la magie du jeu de rôle. Non, c'est faut y aller. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on est dans un petit milieu, donc tout va très vite. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Moi je reste très attentif à ce que font les collègues parce que j'aime beaucoup leur travail aussi. Ils sortent plein de belles choses aussi. Et ce qui est bien, c'est que nous, je pense qu'on a réussi à vouloir faire comme, mais faire ce qui nous plaît vraiment, tu vois. Moi, nous, on avait fait un choix dès le départ, c'était de se dire, on va prendre des jeux coup de cœur. On va prendre des jeux coup de cœur, et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. Moi, je me suis vu refuser des titres, dont je tairai le nom, mais qui sont des beaux titres, des gros titres, parce que ça m'inspirait pas, quoi. Je veux dire, c'était pas, ça me faisait pas vibrer, quoi. Même si je sais que le jeu était extrêmement bien, mais j'ai fait des choix de ce côté-là, en me disant voilà, et j'en suis pas mécontent. Et c'est vrai que très souvent on est allé à contre-courant de ce qui se faisait. On a testé plein de trucs. Et quand je parlais d'expérience, c'est ça qui est juste bien, c'est que on a pu justement voir ce qui se faisait et essayer d'autres choses. Tenter des coups et se dire voilà, ça marche pas et toujours continuer à avancer.
C'était un petit peu une des questions que j'allais poser juste là. C'est quoi la ligne directrice de la loutre? C'est le coup de cœur en fait.
Alors, des jeux coup de cœur avec des auteurs coup de cœur. Parce que c'est important de. Ou des éditeurs coup de cœur. Hein. Mais souvent, parmi les jeux qu'on a, les deux se confondent. Hein, éditeur, auteur, c'est le même. Parce que c'est hyper important dans la relation. Parce que je pense que si tu as un jeu qui est bien, mais que c'est super tendu avec la personne en face, c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut te gâcher le plaisir, je pense. Donc, nous, on a la chance d'avoir, franchement, de travailler avec des éditeurs qui font des bons trucs, avec qui on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et puis, on essaie de faire quelque chose de faire honneur à leur jeu. Donc, ça, c'est super important. Là, je vois, par exemple, avec Rodrigo Garcia Carmona, donc éditeur d'Otherselves, qui a fait la porte d'Ishtar en VO. Lui, c'est juste un mec génial. Pareil pour Tim Henschkin, qui avait fait To the Old Vampire, donc Chronique d'un vampire millénaire, là, qu'on va sortir en français. C'est un vrai artiste, il est génial. Et ou alors Ville Vuorella, donc l'auteur et éditeur de Stalker, en anglais et en finnois. Pareil, c'est quelqu'un de magique, quoi. Donc, nous, on aime bien travailler. Nous, jeux de rôle, c'est à la fois des jeux, mais c'est aussi des gens, quoi. C'est ça. On peut pas faire l'un sans l'autre.
Ça, c'est top. Du coup, ça permet de dévier gentiment. Voilà. C'était de pouvoir aller justement sur ces jeux, existants. Je vais dire qu'on distingue deux grosses tendances, des jeux plutôt pour les grands joueurs et des jeux pour les petits joueurs, des jeux pour enfants.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des jeux adultes, mais il y a les jeux pour enfants. En fait, notre éditorial, on peut pas dire qu'on a une seule ligne éditoriale, genre on va faire que, par exemple, du cinématographique, que de la SF, que non. C'est coup de cœur pour les adultes et pour les plus jeunes. Par contre, c'est vrai que là, on développe quand même une... vraiment notre côté jeu de rôle pour enfants, parce que Petit Détective de Monstres existe depuis 2017 en France. On a pu développer la gamme beaucoup plus que ce qu'il y a en Espagne, ou mieux. Et donc, effectivement, on a ce côté-là enfant, le côté adulte. Et je dis tout de suite, on m'a déjà posé la question, on ne compte pas abandonner le côté adulte, rassurez-vous. Mais ce qui est bien,
les
c'est
deux
que
en parallèle.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de rôlistes, en fait, parmi nos clients qui sont comme nous, des papas et des mamans rôlistes, donc, en fait, qui jouent pour eux et avec et pour leurs enfants. Donc, il n'est pas rare que beaucoup ont certains de nos jeux pour enfants et des jeux pour les plus grands. Donc, ça, c'est cool parce que on voit que ça nous permet, nous, de voir aussi qu'il y a une vraie transmission dans la famille, autour de soi. Voilà. C'est ça qui est pas mal.
Est-ce qu'on peut faire un petit retour, et puis après on va rentrer un peu plus dans le détail justement sur la partie jeunesse, parce que c'est un peu le but de cette interview, de parler de la dernière grosse actu. Est-ce qu'on peut parler, alors je pense que je vais pas me planter sur les ordres de sortie, mais Stalker et La Porte d'Ishtar qui est le plus récent, hein, c'est ça en sortie?
Alors, La Porte d'Ishtar est le plus récent, mais il va être devancé par... par Chronique d'un vampire millénaire qui arrive normalement le 31, s'il n'y a pas de décalage de la minute d'un jour ou deux, ce qui arrive régulièrement. Et après, il faudra attendre septembre pour Incroyable Détective de Monstres. Voilà.
Qui sera finalement au financement. Ouais.
Et donc, on va tout finaliser et envoyer ça en août pour avoir plutôt en septembre. Et comme ça, sur septembre, peut-être des maximum début octobre, on aura tout envoyé. Donc voilà l'ordre des parutions. Et sur le cas, il y aura peut-être une. Non, on est en train de reprendre le projet parce qu'il est déjà bien avancé. On avait mis un peu en stand-by pour différentes raisons. Un projet où on voudrait faire 6 scénarios, un scénario par zone. Voilà, un recueil d'expéditions dans la zone.
Ok. On peut revenir très rapidement peut-être sur ces deux projets là, Stalker, Porte d'Ishtar, et puis on va revenir un peu sur Chronique d'un détective millénaire, si je ne me trompe pas.
D'un vampire millénaire.
J'ai dit quoi?
D'un détective millénaire.
Oula.
Mais ça peut faire un
détective. Oui, voilà.
Ouais, ça peut faire un crossover sympa. Ouais.
Comment ça s'est passé le projet Stalker du coup? Quelle était l'origine de ce projet?
Alors, ça remonte à loin, puis on a mis du temps à le mettre en place. Alors, en fait, en 2015, parce qu'en même temps, on cherchait Black Sad, en fait, on avait vu ce projet, puis j'avais Laurent Rambourg, en fait, l'édition qui s'appelait Gamefou à l'époque, qui s'appelle maintenant les éditions du Troisième Œil, qui m'a dit, ouais... Regarde, il y a un tel, il a fait ça, Stalker et tout, contacte-le, le mec est hyper sympa et tout. Je dis, ah, ok. Puis je l'avais croisé une fois ce jeu, comme ça. Et je suis allé voir, j'ai discuté avec lui, et puis donc, ça s'est bien passé. Et après, par contre, j'ai mis un peu de temps à le faire. Je me suis pas basé sur la version finnoise, je me suis basé sur la version anglaise, qui est donc traduit du finnois vers l'anglais. C'était vraiment dans le ton, mais c'était assez gritty quand même. Donc, chaque fois que tu as un livre, même dans une langue que tu es habitué à traduire ou à lire régulièrement, tu n'as jamais le même niveau de langage.
Ok.
Il faut être habitué. Donc, j'ai pris un peu de temps, etc. Et puis, il a fallu que je. Et comme en plus, nous, on n'a pris que les textes parce qu'en fait, la maquette. Bon, le jeu, c'est extrêmement bien vendu sur DriveThru. Hein. C'est un des best-sellers de DriveThru en PDF et print on demand à l'époque. Moi, je voulais pas garder la maquette années 90 en noir et blanc. Indie RPG à fond. Je voulais vraiment, de l'époque, je voulais vraiment faire quelque chose, quoi. C'était début 2000 qu'il avait dans les Aidouettes, faire 2010 qu'il avait fait, mais les illustrations, je matchais pas. Et donc, le temps que je trouve qui je veux avoir, le temps que je mette en place tout ça, ça a pris quelques années. Et finalement, on a sorti en 2021. 6 ans après.
Mise à jour.
On a fait un truc super avec Tania Sanchez-Fortin, qui fait du pur travail. Hein. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Franchement, c'est juste énorme. Elle est vraiment dans l'ambiance. En plus, elle est à fond dans le post-apo et aussi dans le GN post-apo. Donc voilà, elle cumule tous les bons points. Donc là, on l'a sorti. Depuis, il suit son petit bonhomme de chemin. on a pu sortir grâce aux fans, et il y en a un troisième qui va arriver d'ailleurs au passage, les okay. archives de la zone. C'est sur notre site, dans la partie blog, dans les PDF gratuits, il y a des fans de Stalker qui nous ont envoyé des superbes choses, donc des artefacts, des documents tapuscrits, des créatures, etc. Et on a fait les archives de la zone. La zone, en fait, c'est quelques pages en PDF gratuit où on a ce matériel de fan qui est mis à disposition de la communauté. Voilà. Et régulièrement, sur notre Discord, le Discord de la Loutre, on a aussi des retours de parties qui sont intéressants. Le retour aussi de comment ils ont joué, parce qu'il faut savoir que Stalker, à la base, c'est un système sans dés. Il n'y a pas de dés. Donc, ça peut faire très peur. Ça peut faire peur dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah oui, mais si un MJ abusif, qui veut faire ?» Oui, si le MJ, il n'a pas compris que le jeu, c'était le maître du jeu avec les joueurs. Effectivement, ça va être compliqué. Mais quand on se met dans cette optique-là et qu'on n'a pas besoin d'aider, le système est fait de manière hyper naturelle. Et c'est le système flow, hein, c'est the flow. Donc ça coule tout seul. Et après, il y a un petit système avec des dés que Villet avait une fois mis en ligne sur son blog pour les gens qui voulaient un peu de dés, pour qu'ils s'habituent doucement, parce que ça peut faire un choc. Hein. Mais bon. Et en fait, le système, il est malin, parce qu'il est fait justement pour après t'amener à arrêter les dés. Donc tout est fait pour que tu joues vraiment sans dé à la fin, et ça crée une ambiance et une obligation de que le groupe coopère, et en plus ça correspond à l'ambiance de la zone, parce que dans les zones, si les joueurs coopèrent pas, il n'y en a aucun qui revient. Voilà, ouais. Si un mec il la joue solo, c'est fini quoi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir. On a des extraits en PDF, un extrait en PDF. On a des feuilles de perso. On a les archives de la zone. Allez voir pour vous donner une idée. Et puis si vous avez des questions, hein, la loutre est là, comme d'habitude, toujours présent sur le bord de la rivière.
On peut enchaîner éventuellement sur la porte d'Ishtar. Pareil, le début de ce projet, ou qu'est-ce qu'il en est devenu de ce projet qui est en train de se le faire livrer, c'est ça hein.
C'est ça, en fait, on attend juste les dés qui vont aussi arriver en fin de semaine. Donc, on a encore les derniers envois qui vont partir, c'est les envois où il y avait des dés en fait dans les contreparties. Et donc, pour la porte d'Ishtar, il y a le livre de base hein, qui fait presque 400 pages. Couverture souple, format à peu près A5. Il y a un écran de jeu, trois volets, grand, avec une petite tête de jeu pour les joueurs. Il y a Beauté de marbre, un scénario de 32 pages pour rentrer dans la porte d'Ishtar. Il y a déjà un scénario d'initiation dans le bouquin de base, mais voilà, ça fait un scénario supplémentaire. Et il y a les dés, il y a une bourse. En quantité limitée, ces deux-là, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Et puis, il y a aussi Secret Enterré qui est sorti, un PDF qui avait été débloqué pendant la campagne. Et là, je pense, début mois de juin, on va sortir les Briseurs de Siège, qui est un supplément sur une compagnie mercenaire. Et à partir de là, il y aura aussi un scénario d'initiation écrit par un auteur français que j'ai envie de faire paraître aussi au mois de juin et qui sera gratuit. Et puis pour les souscripteurs, et après il y aura tous les mois et demi maximum un PDF qui va sortir tout ce qui a été débloqué en fait, parce que là en fait avec le premier financement Ulule et le deuxième, on a réussi à débloquer tout ce qui existe. Et je pense que un peu plus tard, je pense qu'on va essayer de faire tout ça soit en livret, faire des mini financements pour par livret, ou faire un plus gros. Ou alors faire un volume complet avec tout. On est en train d'étudier la chose. Et donc, c'est de la Sword and Sorcery, à la sauce mésopotamienne. T'as une base historique, mais avec du fantastique. Donc, côté Sword and Sorcery, c'est parce qu'il y a une sorcellerie qui est très sombre, très sale, vraiment très sale. Voilà. Et où il y a même des cimériens dedans. Oui. Amit Conan. Ce jeu est aussi fait pour vous. Il y a des créatures fantastiques, par exemple les Uridimu, qui sont des hommes chacals qui vivent dans le désert, donc une peuplade comme une autre. Il y a les Awilu, qui sont en fait des humanoïdes de plus petite taille, un peu trapus, qui sont les nobles qui vivent environ 200 ans, qui sont les maîtres d'Akkad. Donc Akkad, c'est l'empire dans lequel on commence les aventures, mais après il y a plein d'autres contrées à explorer, et tout ça constitue le monde de Kishar. Il y a les Mushkenu qui sont des esclaves créés par magie, la magie du sang en fait. Voilà, parce que Sargon d'Akkad, qui vit depuis bientôt 2000 ans, a réduit à néant le pouvoir des Anunnaki, les dieux anciens, pour placer les dieux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, qui ne sont rien d'autre que les dieux des étoiles. Je ne sais pas si le terme dieu des étoiles te rappelle quelque chose.
Un autre auteur...
Si je te dis Koutalou, ça te rappelle pas quelqu'un, dit un peu autrement?
Vaguement, ouais, quand même. Hein.
Vaguement, un truc toulouïde, un peu, voilà.
Ouais, un truc avec des tentacules.
Voilà, donc on parle de soins de sorcellerie, donc antique, mésopotamienne, mais avec une magie vraiment terrifiante. Hein, ou même parfois, même très souvent, les sorciers trouvent la mort, hein, ou la folie. Donc c'est parce qu'il y a aussi le culte des dieux des étoiles, qui en fait, imagine, tu as toute une peuplade dans l'empire d'Akkad qui vénère les dieux des étoiles. Donc en fait, ils vénèrent le panthéon cthulien.
Ok.
Mais tout va bien. Et parce qu'en fait, tout ce qui est très sombre, très noir, les sacrifices là se passent dans des petits groupes très secret, et la plupart de la population ne s'en rend pas compte, en fait. Mais tout ça, c'est un jeu de pouvoir, et bien sûr, tu imagines bien que derrière, donc, qu'est-ce qui est derrière le pouvoir de Sargon. Et en fait, quand le jeu commence, donc 2000 ans après l'arrivée de Sargon et la fermeture de la fameuse porte d'Ishtar, c'est là où les aventures commencent, c'est là où les choses vont changer. Et en fait, les héros, c'est eux qui vont apporter le vent du changement, et peut-être, on ne sait pas, réouvrir la porte d'Ishtar, parce que la porte d'Ishtar, elle est scellée, et à l'intérieur il y a la ville de Babylone, où il y a les ancêtres des Awilu qui ont refusé le joug de Sargon, qui ont refusé le joug des dieux des étoiles, qui continuent à vénérer les dieux anciens, donc les Anunnaki, qui sont encore là. Et donc et il y a une forte il y a une forte imprégnation du destin, en fait, dans le jeu. Le destin, il est écrit quelque part. Mais les joueurs et les joueuses, donc, qui vont incarner les personnages dans la porte d'Ishtar 2000 ans après la fermeture de cette porte, sont des vrais héros, sont ceux qui vont pouvoir changer la trame du destin, de leur destin et peut-être du destin de beaucoup d'autres. Donc il y a vraiment une dimension vraiment héroïque. Et tout le système qui s'appelle le moteur des émotions, en fait, est tourné de cette manière. Ça joue avec 3D6, c'est très simple. Et dedans, il y a deux caractéristiques qui s'appellent passion et détermination, qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est le destin, les émotions, et le vrai héros, il montre ce qu'il a en lui, en fait, au fond de ses tripes, au fond de son âme, en fait. Et tout tourne autour de ça.
Et donc là, c'est vraiment épique, en fait.
Voilà, c'est un jeu épique, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de sword and sorcery, mais vraiment, c'est... Enfin, moi, quand je l'ai lu entre les mains, je l'ai lu, en plus, Rodrigo écrit super bien, il est universitaire, donc, en plus, donc si tu veux, il a un style, il a quelque chose, quoi. T'as les musiques qui te résonnent dans la tête, tu as les images, et comme il y a énormément de background, tu peux vivre des aventures. En plus, ce qui est très fort, c'est que il y a une partie des personnages, comme j'ai oublié de citer les Wardou, qui sont des sortes de minotaures, des hommes taureaux ou des femmes taureaux, et les Mushkenu, ils ont été créés par la magie du sang à base d'argile, et ce sont des esclaves à la base. La liberté n'existe pas en Akkad, à moins d'être un Awilu, donc d'être parmi les nobles, ou de faire partie d'une autre peuplade, et encore, à moins d'avoir été réduit en esclavage, on peut être réduit en esclavage aussi, mais la plupart des joueurs sont des gens en quête de liberté, qui sont pas censés être libres. Donc tu peux imaginer ce que c'est. Les joueurs sont des héros, mais les joueurs ont une pression folle. Et tu peux faire tout dedans. C'est vraiment un jeu, tu peux le faire en one shot, mais c'est vraiment prévu pour être joué en campagne, et encore plus en bac à sable, parce que Les joueurs en plus sont liés entre eux. Le groupe, au début, quand tu fais la création des personnages, tu fais aussi une création de groupe. Donc tout le monde est lié. Donc il y a un lien très fort. Les héros sont liés entre eux. Et en fait, il y a tellement de choses, d'idées, d'aventures, qu'en fait, partout où ils vont aller, il va y avoir quelque chose à faire. Tu pourras faire tous les types de scénarios que tu veux. Ça peut être de l'exploration, de l'enquête, des combats épiques, des intrigues de palais. Partir dans l'étrange, la magie, partir même dans le Lovecraftien, tu peux faire vraiment, t'as un panel de possibilités qui est incroyable, quoi. Moi, à chaque fois que je rouvre le livre, je fais, ah ben, tiens, ça, j'avais pas eu cette idée la dernière fois. À chaque fois, j'ai un nouveau scénario qui arrive, quoi. C'est juste un jeu impressionnant, en fait. Et donc là, on est content qu'il soit arrivé, et on a que des bons retours. Voilà, le contenu plaît énormément. Et il y a déjà des parties qui se sont mises en route rien qu'avec les PDF, et on a régulièrement aussi des retours. Donc on est vraiment, vraiment super content, quoi. Voilà, on sait que les gens jouent et ça nous fait plaisir.
On reviendra sur Chronique d'un vampire millénaire sans doute dans 15 jours sur la prochaine émission. Là, la grande actu, c'est Incroyable Détective de Monstres, qui est à la fois une suite et un complément, mais aussi solo, de Petit Détective de Monstres.
C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y avait Petit Détective de Monstres, livre de base autonome, on joue et il y a toute une gamme derrière. Là, avec Incroyable Détective de Monstres, en fait, c'est aussi pareil, c'est un livre, tu peux le prendre tel quel, jouer directement, il y a tout pour jouer dedans, sans problème, 100%. Et si tu as déjà Petit Détective de Monstres, ça t'apporte plein de nouveaux monstres, plein de nouveaux gadgets, des règles supplémentaires, des missions supplémentaires, donc là il y en a trois, dont celle d'exemple qui est jouable. Ça t'apporte des infos supplémentaires sur la dimension poussière, d'où viennent les monstres, et puis plein d'autres petites choses. Il y a des événements qui servent d'amorce d'aventure, il y a plein de petites subtilités en plus, il y a un peu plus d'explications sur le grandeur nature. Donc d'un côté, si tu veux commencer par Incroyable Détective de Monstres, c'est parfait, t'as tout. Et puis après, si t'as envie d'avoir un peu plus de monstres, tu pourras prendre Petit Détective de Monstres, voilà. Et si tu as déjà Petit Détective de Monstres, ben tu peux prolonger l'expérience avec Incroyable Détective de Monstres pour avoir encore plus de matériel de jeu. Donc voilà, les deux, et ça forme déjà ce qu'on appelle maintenant la collection Détective de Monstres. Donc où il y aura donc Petit Détective de Monstres, Incroyable Détective de Monstres, et qui sait, peut-être plus tard un troisième livre, on ne sait pas encore.
Gros teasing. De quoi ça parle, du coup, cette collection Détective de Monstres? C'est quoi ce jeu?
Alors, ce jeu, c'est-à-dire, donc déjà, c'est un jeu familial pour jouer avec ses enfants, pour jouer en animation, pour jouer en médiathèque, pour jouer avec des enfants et les initier au jeu de rôle, ou simplement les faire jouer. Voilà. Et dans ce jeu, on est à notre époque. Et il y a une agence de détectives de monstres qui emploie des petits détectives de monstres, ou des détectives de monstres tout simplement, qui vont aller dans les maisons et dans les différents lieux où des monstres posent problème. Alors c'est un jeu qui est fait pour apprendre aux enfants à gérer leur peur, et ça marche très bien avec le recul. Et donc tout est fait pour que ça soit mignon. C'est pas un jeu violent. Il n'y a pas de règles de combat dans ce jeu. Donc les petits détectives, ils vont aller dans les maisons, dans les égouts, dans les cours d'école, parcs, musées, etc., ou gymnase, là où il y a un monstre qui pose problème. Et ils sont là pour soit attraper le monstre et l'enfermer dans une petite fiole en cristal qui va le rendre gentil. Soit voir avec lui pourquoi il fait du grabuge. Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il est en colère après quelque chose, ou qu'il est triste, quelque chose. Dans ce cas-là, ils peuvent l'aider pour qu'ensuite le monstre arrête de faire ses bêtises. Parfois, il s'agira mieux. Comment ?
Ce qui est mieux, le fait qu'il arrête ses bêtises.
Voilà, ce qui est mieux, parce qu'en fait, finalement, les monstres, on dit certains, sont très méchants, très effrayants. En fait, en général, ils sont plus bêtes que méchants, ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou... Des fois, ils ont simplement besoin qu'on s'intéresse à eux, les pauvres petits monstres. Ils ont juste envie de trouver des copains, mais ils ne savent pas s'y prendre. Donc, les petits détectives, c'est aussi dans leur prérogative de faire ça. D'ailleurs, dans les contrats de petits détectives, il est dit qu'il ne faut faire de mal à personne, même pas aux monstres. Bon, je ne dis pas que parfois, dans certaines parties, il y a eu un coup d'aspirateur sur la tête du monstre. Ça a pu arriver. Mais bon. Et après, il y a aussi la recherche d'objets. Parce que les monstres, tu t'en doutes bien, tu te dis, pourquoi j'ai toujours qu'une chaussette et pas deux? Je peux pas faire des paires.
C'est vrai.
C'est qu'il y a un monstre chez toi. Voilà. Tu vois, tu vois des trous dans ton t-shirt, tu fais, ah, mais pourtant, j'ai pas de souris, il y a pas de mythe. Ben non, c'est un monstre. Et donc voilà. Et parfois, des objets disparaissent. Tiens, j'avais mis ça là, mais bon. Et ça, c'est les monstres qui font tout ça. Et donc parfois, tu seras appelé aussi pour retrouver un objet. Et parfois, c'est chasser un monstre ou parler avec lui et retrouver un objet. Parfois, il peut y avoir plusieurs monstres. Et là, ça devient plus compliqué. Et en fait, au fur et à mesure des missions, donc les petits détectives, enfin les détectives, qu'ils soient petits, incroyables ou simplement détectives. Vont prendre de l'assurance, vont prendre de l'expérience, vont avoir de plus en plus de gadgets à utiliser, vont avoir des médailles pour prouver leur valeur, vont avoir leur petite carte où va être indiqué combien de missions ils ont fait. Et ça va créer comme ça, au fur et à mesure, plein d'histoires à raconter. Et puis ce qui est très rigolo aussi, c'est quand on a joué plusieurs parties, c'est des fois de faire revenir un monstre. Alors, là, tu vas me dire, mais comment ils peuvent trouver le monstre? Voilà, tout à fait. En fait, quand ils vont être dans un lieu, ils vont commencer à trouver des indices, des choses, comme je t'ai dit, des choses à trouver, des placards ouverts, des choses qui, des ampoules qui disparaissent, ou alors des ampoules qui clignotent, des choses qui vont se passer à la maison. Et tous ces indices vont les amener sur des pistes, et ils vont, au fur et à mesure, se rendre compte que, cette chose-là, là, ça pourrait correspondre à tel monstre et celle-là plutôt à celui-ci. Donc tu sais, il y a plein d'indices qui vont les faire pencher pour l'un ou l'autre monstre qui sont dans le livre. Et après, ils vont peut-être trouver des traces de pattes. Après, ils vont
comparer.
Alors voilà. Alors pour comparer, c'est très simple. Soit tu leur donnes accès au livre que tu as entre les mains, donc que ce soit Incroyable Détective de Monstres ou Petit Détective quand c'est des monstres qui sont dans Petit Détective. Et soit à la mallette du vétéran. Donc en fait, c'est un jeu de cartes qui représente les monstres, les gadgets, et pour la première mallette qui est disponible. Et la prochaine, il y aura en plus les capacités des monstres, parce qu'il y a des règles sur les capacités de monstres. Et donc tout ça, les enfants, mais pour regarder alors on a les cartes de monstres avec le monstre, la trace de pattes, et puis comme ça, ils l'auront devant les yeux, ils vont pouvoir comparer. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on va essayer de continuer jusqu'à trouver la tanière du monstre. Mais le problème, c'est que pendant tout ça, la peur, elle va augmenter. Il va y avoir des vrais indices, des faux indices, donc des fausses pistes et des pistes valables. Et au fur et à mesure, tout ça, ça risque de faire monter la peur générale. Et toute la peur, en fait, elle est comptabilisée dans ce qu'on appelle le localisateur de peur, qui est un appareil qu'a toujours le détective vétéran. Alors, détective vétéran, c'est le meneur de jeu. Qui est à la fois le meneur de jeu, mais qui fait aussi partie de l'équipe. Donc, il peut intervenir s'il le souhaite. Et il peut aussi confier le localisateur à un autre détective. Et t'as un niveau de peur qui va s'accumuler. Et le but, c'est de pas trop le faire monter. C'est-à-dire de trouver pourquoi il y avait tel problème dans la maison. Tel indice, finalement, c'était pas bon. Donc, voilà, ça peut faire baisser. Parce que quand on arrive face au monstre, toute la peur accumulée, en fait, c'est la tension, si tu veux, générale de l'enquête. Plus ça monte, plus ça, tout le total va se rajouter à la peur du monstre. Et donc, plus le monstre, plus il y aura de peur à affronter, plus ça va être compliqué d'attraper le monstre. Parce qu'à la fin, quand tous les détectives vont tomber sur le monstre, ils vont faire simplement un jet de dés pour déterminer si oui ou non ils ont vaincu la peur du monstre et donc ils ont pu faire ce qu'ils voulaient avec le monstre. Et après, bah, une fois que c'est ça, donc s'ils l'ont capturé, ils le ramènent à l'agence, où en peu de temps, il va être transformé en monstrounet, un monstre gentil qui va ensuite aider les petits détectives. ce qui n'est pas la même chose que les gamousinos, qui sont des petits monstres blancs, qui sont très gentils, qui sont toujours des alliés des détectives de monstres. Et soit ils vont pouvoir raisonner le monstre et discuter avec lui. Bon, alors, parfois, il n'y a pas besoin de faire cet affrontement de peur parce que le monstre, parce qu'ils sont souvent très malins, les détectives, et ils trouvent des moyens pour que justement le monstre soit très très calme. Et donc, il n'y ait pas de réelle confrontation. Donc après, ils peuvent tranquillement parler avec lui, l'aider, et avoir satisfaction d'avoir rempli leur mission. Et là, tu vas me dire, oh, mais comment ça fonctionne?
Mais comment ça fonctionne?
Ah ben voilà. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est 3d6. Quand on lance, on compare un seuil de difficulté qui est de 2, 4, 6. Donc très facile, moyen, difficile. Et on garde le dé qui a la valeur intermédiaire sur les 3D. Par exemple, tu fais 3, 4 et 6, bah, tu vas garder le 4, okay, de manière générale. Et tu vois si ça égale ou ça surpasse. Si ton détective a été mordu, effrayé, ou qu'il y a un désavantage, parce que dans le creux détective de monstres, ils ont tous un avantage et un désavantage, influer sur le jet de dé, ils prendront le dé avec le stade plus bas. Et s'ils ont le gadget qu'il faut, ou qu'ils ont un avantage, ou éventuellement si le vétéran décide que là, il y a toutes les circonstances réunies pour que ça se passe bien, ils prendront le restal plus haut. C'est aussi simple que ça.
Ah, c'est pas très compliqué, effectivement.
Ah non, c'est peut pas. En plus, ce qui est bien fort, moi je conseille de jouer avec des dés, avec des constellations, désolé, c'est du langage de prof des écoles, avec les petits points. Parce que, okay, voilà, parce que comme le jeu en fait est destiné aux enfants à partir de 3 ans, alors 3 ans c'est super en grandeur nature façon chasse au trésor. Donc là, t'as pas forcément besoin de GD, tu fais un parcours, tu mets des indices dans la maison, dans le jardin, où tu veux, et au fur et à mesure, on va remonter jusqu'à la tanière du monstre. Et à partir de 5 ans, autour de la table, comme les grands. Donc là, donc avec les dés, les règles. Bon, après, il y a d'autres règles, mais voilà, le fonctionnement de base, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est pas plus compliqué, en fait. Donc,
mécanique simple et accessible dès 3 ans. Ça fait des parties plutôt courtes, j'imagine, quand même.
Oui, bah, les parties, c'est alors en moyenne 45 minutes, la mise en place, etc. Mais ça varie entre une demi-heure et 45 minutes pour la plupart. Moi, j'ai vu des parties durer plus d'une heure, mais avec des un peu plus grands, en fait, qui avaient 8, 9 ans ou 10 ans, et puis là, ils y allaient à fond, et tout, ils en rajoutaient. Mais c'est vrai que pour les plus petits, faut se limiter à une demi-heure, je pense, quitte à faire en deux fois, et avoir un groupe, 4, 5 maximum. Voilà. Parce que ces mesures, en fait, c'est comme dans les parties pour les adultes. Hein. Après 4, 5, ça peut devenir problématique.
Oui, ça peut devenir compliqué.
Sauf quand tu joues comme des jeux comme Bloodlust, où là, tu as les armes et les porteurs d'armes. Donc, ouais, effectivement, tu peux avoir des tablettes 12, 20, j'en ai vu. Mais là, non. Là, pour garder. Et puis... Alors, par contre, c'est justement, en parlant de ça, gérer un groupe d'enfants, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué. Parce que tous les jeux, j'ai initié énormément d'enfants dans le cadre de médiathèques, d'animation et autres. Et c'est vrai que, ou donc en convention, et en fait, ils sont pas en fond dedans. Ils ont même des réflexes de rôlistes déjà bien, bien chevronnés. Moi, j'ai vu des parents avoir la larme à l'œil en voyant leur gamin jouer. Donc, tu vois, ils sont dedans. Alors, par contre, c'est vrai que ça peut surprendre. Bon, je connais des parents qui se font mis au jeu de rôle grâce à Petit Détective de Monstres, et qui maintenant jouent à des jeux pour les plus grands aussi. Mais pour les aider, justement, dans le Incroyable Détective de Monstres, il y a une règle qu'on peut utiliser, mais qui est très bien, c'est le tour. C'est-à-dire qu'en fait, les petits détectives auront un tour où ils pourront faire leurs actions, ils pourront se déplacer, puisqu'il y a un système de déplacement maintenant en plus, et qu'il n'y avait pas dans Petit Détective de Monstres, et il y a aussi le tour du monstre. Donc ça permet, si tu veux, c'est comme quand tu es en classe, on y va sur avec le tour de parole. Chacun va jouer à son tour et chacun va respecter la parole de l'autre. Donc là, tu as vraiment toutes les valeurs pédagogiques autour du jeu qui sont là. Et c'est une grosse aide pour les parents, tout comme la mallette dont je te parlais, avec les cartes format tarot. Ça, c'est des demandes des parents effectivement, nous, on l'a développé parce qu'on sait que les enfants, autour d'une table, ils ont besoin d'être cadrés, mais aussi d'avoir les mains occupées, de manipuler, en fait. Tu vois ?
Ok.
Et donc, et ça, ce système tour par tour, c'était très pratique. Ça permet de fluidifier le jeu. Et ça leur donne aussi des petits réflexes de joueur aussi, en fait, mine de rien. Parce que le tour par tour, on en a dans tous les jeux. Que ce soit un jeu de plateau, ou jeu de rôle ou autre. Voilà. Donc, tout est fait pour, là, encore plus dans Incroyable que dans Petit Détective, pour vraiment aider les ados ou les adultes qui vont faire jouer au départ leurs enfants. Alors, le jeu, effectivement, tu vas me dire, mais c'est un jeu pour les enfants, maîtrisable par les adultes. Je te dirais, au début, oui. Parce que c'est pas à 3-4 ans que tu maîtrises une partie. Mais à partir de 8 ans, c'est faisable. C'est largement faisable. Et après, moi, ce que je conseille, bon, ça, c'est le côté parent, éditeur et ancien prof aussi, hein, voilà. De dire qu'il faut un peu d'étayage, c'est-à-dire qu'il y a un adulte ou un adolescent qui connaisse le jeu de rôle, qui soit derrière pour aider les premières parties, tu vois, être le joker pour gérer un petit peu et prendre en main. Moi, je pense que les enfants peuvent y arriver. Moi, personnellement, à 11 ans, je maîtrisais de l'Okmoon, du Cthulhu, voilà. Donc je pense que les enfants peuvent y arriver sans aucun problème. Et en plus, si les parents sont un petit peu rôlistes, voilà, ça facilite les choses encore plus. Et si vous n'êtes pas, ça se passera très bien aussi. Et nous, on a vu beaucoup, on a des retours maintenant d'enfants qui se sont mis, qu'on avait fait jouer il y a 2-3 ans, qui se sont mis à maîtriser du Petit Détective et d'autres jeux, etc., à se lancer justement grâce à ça, quoi. Alors, leur première partie de MJ, c'était sur, donc, le détective vétéran, c'était sur Petit Détective de Monstres. Donc là, on espère que ça fera la même chose avec Incroyable Détective de Monstres.
En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On va revenir vite fait sur le, enfin, plus en détail sur le financement participatif en lui-même. Ça a commencé, si je ne me trompe pas, le 16 mai, c'est ça, sur la plateforme Ulule.
Oui.
Là, on est à 91%, autant dire que c'est quasiment bouclé. Il reste 17 jours au moment où vous allez entendre cet enregistrement, cette interview. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que les souscripteurs peuvent attendre de Incroyable Détective de Monstres ?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par attendre ? Qu'est-ce qu'on va ce qu'on leur propose, en fait ?
C'est ça, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter ?
Ah, voilà, donc parce que c'est... Alors, en fait, on propose très simplement le financement du livre de base. Donc, je rappelle qu'il n'est pas une V2, qu'il est de Petit Détective de Monstres et qu'il ne le remplacera pas. C'est son copain. Son copain. On propose le kit de l'incroyable vétéran. Donc, au lieu de faire simplement un écran comme on avait fait avec quelques feuilles qui avaient un monstre supplémentaire avant et des gadgets supplémentaires, là on a essayé de faire un kit complet avec l'écran, un plan, voire deux, de maison, donc qui correspond à ce qu'il y a dans le livre, les pions et les stickers qui avaient donc avec des traces de petits pions carton avec les traces de pattes de monstres qui avaient avant, on les a passés du livre dans le kit.
Ok.
Voilà, et donc il y aura déjà tout ça. On va peut-être voir pour ajouter d'autres choses. Pour l'instant, l'écran, on n'a pas de visuel parce que il est en cours de. Nous, on a vu le draft d'illustration qui promet, franchement, parce qu'on a commandé justement. Il n'existe pas en Espagne à l'écran, et donc pour faire le kit, on avait besoin de cet écran. Normalement, on aura des news dans quelques jours, dans la première quinzaine de, avant la fin, c'est sûr. On aura des news et à ce moment-là, on révélera l'écran, le visuel de l'écran. L'intérieur est déjà fait. Donc, on proposera ça. Et on propose aussi la mallette du vétéran numéro 2, donc avec les cartes des monstres qui sont dans Incroyable Détective de Monstres, ainsi que les gadgets qui sont dans Incroyable Détective de Monstres, et aussi les capacités des monstres, qui est une nouvelle règle qu'on voudrait bien débloquer. Je précise que la mallette du vétéran numéro 2 ne concerne que Incroyable Détective de Monstres, puisqu'on a eu la question à plusieurs reprises. Si vous voulez les monstres sous forme de cartes pour Petit Détective, c'est la mallette numéro 1, la bleue. Voilà. Okay. Et les deux sont complémentaires aussi. Donc, on propose une contrepartie à 75 euros qui s'appelle Détective Chef. qui est là et qui est encore au Early Birds, voilà, qui a plus de la moitié déjà prise, où il y a donc le livre de base, le kit, la mallette, et on offre 3D Gamosinos, qui sont avec lesquels on peut jouer aussi, et tous les paliers débloqués. Après, on a Détective Citrouille, avec un 6, donc là où c'est le livre et l'écran, et les paliers débloqués. Alors bien sûr, pour toutes les contreparties, on offre les PDF du livre et de l'écran. Donc là aussi, il n'y a pas les débloqués. Après, il y a Détective Même pas peur, où là, c'est juste le livre de base avec le PDF et les paliers débloqués. Bien sûr, c'est les paliers, c'est lié à la contrepartie, parce que certains paliers ne, voilà, sont applicables, ont tout expliqué dans le financement. Et après, quand il y aura plus de Early Birds, il y aura toujours des Détectives Chef-Chef, mais un petit peu plus cher, à 79,40€. Donc voilà pour ce qu'on propose. Et on propose ensuite d'augmenter la mallette, donc pour à la fois les capacités des monstres, il y en a 11, des cartes vierges pour faire ses propres monstres. On propose de débloquer aussi les cartes de visite de détectives, les cartes d'indices pistes aussi, et comme on avait fait pour Petit Détective, aussi des missions avec des plans. Alors ça sera des choses complètement nouvelles aussi, tout comme l'écran, comme la mallette, tout ça c'est tout nouveau, parce que ça n'existe pas encore en Espagne. Donc on espère aller le plus loin possible pour débloquer un maximum de choses. Et si on va assez loin, on pourra même imprimer les missions avec les plans. Et dans ce cas-là, les offrir aux contributeurs. Et ben, voilà, c'est ce qu'on avait fait sur Petit Détective de Monstres. On avait réussi à tout valider et à les offrir.
Bon, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite, c'est que ça aille le plus loin possible. Et même au-delà des espérances.
On vous réserve des surprises là. Dans les prochains jours, il va y avoir des petites surprises.
Ah, va falloir surveiller la page Ulule, ouais, du financement. Et si tu devais, moi j'aime bien ça. C'est un petit concours de pitch en quelques mots. Convaincre quelqu'un d'acheter Incroyable Détective de Monstres plutôt qu'un autre jeu. Tu ferais comment? Tu dis quoi?
Alors, qu'est-ce que je dirais? Je vais pas lui dire simplement achète. Non, je ne suis pas comme ça. Je dirais que pourquoi Incroyable Détective de Monstres? Parce que il est important de faire jouer les enfants. Que c'est un jeu qui est fait pour les enfants, qui est un vrai livre jeunesse, qui est pas violent, qui est tout doux, et c'est la meilleure entrée du monde pour jouer au jeu de rôle quand on est petit. Voilà. Et puis en plus, à la fin, quand on a fini de jouer, on peut dire qu'on n'a même plus peur. Voilà pourquoi il faut prendre Incroyable Détective de Monstres.
Radio G, 101.5 FM.
Et oui, vous venez d'entendre une longue interview qui n'est pas finie, puisqu'on aura le plaisir d'entendre à nouveau la loutre dans 15 jours. Je vais dire la semaine prochaine, mais non, dans 15 jours, qui nous parlera de Chronique d'un vampire millénaire, un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à quel point lors de l'émission de dans 15 jours. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur le www.radio-g. .fr, onglet Les Voix du Scénarium. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble Les Voix du Scénarium.
www.radio-g.fr.
partons ensemble à la conquête du Graal, celui du savoir sous toutes ses formes. Et pour ça, on a besoin de vous. Posez vos questions, toutes vos questions, des plus existentielles aux plus décalées, des plus sérieuses aux plus drôles. Nous y répondons en une minute chrono dans Question Graal. À découvrir dans les émissions Topette et CMA, mais aussi en avant-première dans les podcasts plus de radio-g.fr. Pour poser vos questions, par écrit ou en message vocal, allez sur le site radio-g.fr, rubrique Contact. Vous pouvez aussi découvrir le Graal en vidéo sur les comptes Question Graal d'Instagram et Facebook. Alors, à vos questions sur radio-g.fr. Certains y voient le plus vieux métier du monde, d'autres la misère de ce même monde. Mais il s'agit aussi d'un fantasme. Depuis l'arrivée d'Internet, de nouvelles pratiques émergent en mode auto-entrepreneur. Dans cet épisode, nous arpentons le sujet.